Et vous écoutez France Culture. Une peinture est toujours assez morale quand elle est tragique et qu'elle donne l'horreur des choses qu'elle retrace. Barbé d'Aurevilly. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui vous offrira ce soir un bon bain de noirceur en évoquant l'univers de Henri-Georges Clouzot. Centenaire faisant, l'auteur du Salaire de la peur, des Diaboliques et de la Prisonnière se voit consacrer coffret, Blu-ray et DVD, biographie, analyse et exposition. Alors perdons pied tous ensemble avec Clouzot. Bienvenue dans Mauvais genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, consacré ce soir en quasi-intégralité à Henri-Georges Clouzot, dont l'année 2017 eh bien, sera une année de centenaire. Je salue les participants de l'émission. Bonsoir Fausto Fazulo.
Bonsoir.
Alors on a fait un peu nos courses dans la riche filmographie de Henri-Georges Clouzot. Vous avez choisi quoi vous-même?
J'ai pioché La Prisonnière.
La Prisonnière, très bien. Bah, on vous attend sur ce film qui est quand même son dernier film, un film assez particulier et qui est à la limite de l'expérimental. On va en parler. À part ça, votre actualité? Vous revenez du Japon, bien évidemment.
Pas loin, non, je reviens de la Corée du Sud. Attention, ça va pas faire plaisir aux Japonais, si on confond.
Un gage.
Voilà, pays du matin calme et des mauvais genres. Voilà. Bong Joon-ho vient juste de terminer son nouveau film, qui s'appelle Parasite. Et voilà, il vient de terminer le tournage de ce film-là, qu'on devrait voir en 2018 sur les écrans de cinéma, j'espère.
Très bien, ben on salue Bong Joon-ho, d'ailleurs, qui est un grand amateur de Clouzot, à qui il doit même, on peut le dire, parmi ses premières émotions de cinéaste.
Complètement, un film comme Memories of Murder doit beaucoup au cinéma de Clouzot, effectivement.
Hubert Prolongeau, vous, votre première émission de cinéma, c'était quoi?
Ouf, ma première émotion.
Ah oui, oui, oui.
Ah non, ça devait être très bien pensant. Ça devait.
Ah bon.
Ouais, voilà. Parce que j'ai été élevé comme ça.
Genre de la noix.
Voilà, Barry chien loup ou chien perdu sans collier. Donc rien quand même de très recommandable.
Et en matière de Clouzot, première émotion?
Ah, ça a été L'Assassin habite au 21. Mm-hmm. Film vu en famille, il fallait à l'époque être quand même, on regardait pas n'importe quoi et on regardait pas ça tout seul, et où donc ma mère en particulier était frétillante à l'idée que je trouve l'astuce géniale des trois en un.
Vous l'avez trouvé?
Et non, je l'ai déçu pour la première fois.
C'est le début.
Je n'ai jamais oublié cette œuvre.
Et ben ce soir, d'ailleurs, vous n'avez pas choisi L'Assassin habite au 21, vous êtes même allé à l'autre bout de la carrière de.
Oui, exactement. J'ai choisi son grand film incompris et méconnu, qui est Les Espions.
Ah ben voilà, un film, alors là aussi, comme La Prisonnière, assez particulier et assez atypique. Quant à Philippe Rouillet, sa première émotion clouzotique ou clouzotienne?
C'était Le Corbeau, mon père en était fan, et voilà, et donc découvert en famille et quand même estomaqué d'un film où, au-delà de l'énigme policière de qui était le corbeau, il y avait quand même une vision du bien et du mal dans le film qui m'a tout de suite fasciné et m'a alerté sur ce que pouvait être le cinéma de Clouzot.
Voilà, ben moi l'alerte elle est venue effectivement d'une part de L'Assassin habite au 21, vu en famille et au poste.
Clouzot est un cinéaste familial, voilà ce qu'il faut
et
conclure.
Télévisuel.
Et qui se transmet de père en fils visiblement avec aisance.
Et ce soir, malgré tout, j'ai choisi de vous parler des Diaboliques 1955. Mais en attendant, eh bien, on va ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire donner la parole à Céline Duchesnay avec la lettre ce soir, ma chère Céline.
Je vous propose la lettre S comme Sahal, Elsa Sahal.
Moi, je joue beaucoup avec la mollesse du matériau et j'observe beaucoup le matériau quand il se répand, J'aime bien le pathos et j'aime bien que ça dégouline, que ça ait du mal à s'ériger. C'est vraiment quelque chose de spécifique de la céramique. Le pathétique, pour moi, c'est pas du tout un problème. Enfin, je sais pas comment dire ça. Enfin, ça fait partie de voilà, les choses tombent. Enfin, la gravité, enfin la pesanteur, c'est l'ami de personne. Et pourtant, c'est là. Faut faire avec.
« Elsa Saal est une artiste céramiste qui s'intéresse beaucoup au corps et aux questions de genre. Alors plus que des œuvres figuratives, elle préfère faire des évocations de corps, des impressions. Cela peut être des morceaux de corps, des formes amolies, des états de matière. Et pour elle, l'histoire de la sculpture est, je la cite, l'expression d'une grosse virilité et d'un rapport de pouvoir. Alors avec humour, elle propose des formes masculines qui tombent, des autoportraits d'elle en forme de grotte, des vulves, des sorte d'arbre transgenre. Je l'ai découverte, quant à moi, en 2012 avec une œuvre intitulée « Fontaine » qui, semblable à un mannequin piece, représente une femme debout, sexe en évidence, jambes légèrement écartées, en train d'uriner. Un long jet continu et puissant qui force l'admiration et auquel nul n'oserait s'opposer. La femme qui pisse est devenue pour Elsa Saal une figure héroïque de l'espace public, un manifeste que l'artiste donne à lire à travers une matière, la terre, qui se métamorphose en objet artistique.
Oui, oui, je pense que c'est vraiment lié à cette spécificité. En plus, il y a beaucoup de possibilités de polychromie aussi. C'est typique de la céramique. Et ça peut être à la fois du côté de l'abject ou du côté du sublime. En fait, c'est un matériau qui fait le grand écart. Voilà, ça peut être à la fois la porcelaine de Sèvres et en même temps... là, on a sous les yeux une image où on voit de la terre qui sèche à l'atelier. C'est presque de la matière fécale. Donc voilà, c'est une matière qui fait le grand écart, qui est très proche du corps aussi, qui a cette mollesse. Et puis en même temps, c'est un matériau qui est presque déjà du corps. Et en même temps, c'est la transformation qui passe par l'épreuve du feu, qui fait que, voilà, de manière irrévocable, cette matière organique devient minérale. Et il y a aussi une part de mystère. On découvre qu'en ouvrant la porte et en défournant ce qui s'est passé, alors parfois avec des grandes déceptions, parfois... en fait, c'est très, très réel. Je pense que les céramistes sont des gens qui font avec, quoi. Qui font avec le réel, parce que ce matériau-là nous rappelle toujours, toujours, toujours à la réalité.
Alors, pourquoi cet intérêt pour ce corps à travers ce matériau?
Ce qui me semble important, en particulier avec une série qui s'appelait les pole danseuses, l'idée étant de montrer aussi le désir féminin, mon désir, tel que je peux le vivre dans un rapport sexuel, dans une sensation en fait, un corps vécu de l'intérieur beaucoup plus qu'une représentation d'un corps. En fait, il s'agit de montrer des énergies et des perceptions qui sont en jeu dans l'érotisme.
Pour retrouver Elsa Saal, vous pouvez vous rendre sur son site internet www.elsasaal.fr ou sur celui de sa galerie www.galeriepapillonparis.com. Par ailleurs, vous retrouverez son œuvre Grotte généalogique à l'exposition collective Women's House qui a démarré la semaine dernière à la Monnaie de Paris, à voir jusqu'au 28 janvier 2018, en compagnie d'une quarantaine d'artistes femmes qui exposent autour de la rencontre de deux notions, le féminin et le domestique. Puis en mars 2018, Elsa Saal exposera seule à la Galerie Papillon dans le 3e à Paris.
Merci Céline pour cette entrée. Donc Elsa Saal de l'Encyclopédie pratique des mauvais genres. J'imagine qu'en son temps, avant 1977, donc la date de sa mort, Clouzot aurait peut-être été intéressé, même sûrement, par les certains artistes que vous avez sélectionnés dans votre encyclopédie parue chez Nada, c'est vrai, on ne sait jamais. Lui qui avait, on va pas déflorer le sujet qui va être traité par Fausto, mais lui qui avait du goût pour des artistes un peu transgressifs et diagonales, là, il aurait été servi.
Et il faudrait demander à Fausto quel serait a priori l'artiste cher au cœur de Clouzot, ça.
Moi, j'ai une réponse.
En tout cas, il y a un lien direct avec l'une des entrées de l'encyclopédie l'encyclopédie pratique des mauvais genres et Clouzot, c'est Noël Herp.
Et ben, c'est ce que j'allais dire, voilà. Hein,
voilà.
Vas-y.
Voilà, puisqu'il est commissaire de l'exposition Le Mystère Clouzot et qu'il figure bien placé dans l'encyclopédie pratique des
alors,
mauvais
genres. Alors, il ne parle pas de Clouzot dans mon encyclopédie, puisqu'il parle de son goût pour le collant et de cette étouffante moiteur qui lui en serre les jambes.
Voilà, ben, l'étouffante moiteur est au rendez-vous ce soir de Mauvais Genre qui vous parlera d'Henri-Georges Clouzot, dont c'est cette année le double anniversaire.
Easy Ride.
Oui. Ce sont des problèmes qui vous préoccupent?
Je pense qu'ils préoccupent tout le monde. Enfin, moi, je sais pas, j'ai passé l'après-midi après ça avec un certain nombre de hippies et j'étais vraiment très intéressé par ce qu'ils m'ont dit. Comment est-ce qu'on ne peut pas être intéressé? D'ailleurs, tu sais, je reviens des États-Unis et à San Francisco, j'en ai rencontré beaucoup et c'est une fermentation qui compte.
Alors effectivement, double anniversaire Henri-Georges Clouzot cette année, puisque c'est le 110e anniversaire de sa naissance à Niort en 1907 et le 40e anniversaire de sa mort en 1977. Et à cette occasion, alors c'est un festival Clouzot qui va vous être offert, puisqu'il y aura donc une exposition, Le Mystère Clouzot, chez Monsieur Rouillé à la Cinémathèque.
Avec comme commissaire Noël Herp.
Avec Noël Herp, on le répète. À Niort, il y a donc une exposition Clouzot et les arts plastiques à Paris à Niort, donc une suite contemporaine du 17 novembre au 12 janvier, donc c'est à Paris, pardon, à la Topographie de l'Art, rue de Torigny. Et donc le commissaire Paul Ardenne a demandé à des artistes d'aujourd'hui eh bien, de se laisser porter et influencer par les œuvres de Clouzot. Donc là, déjà, un bel ensemble qui va se faire. Et puis, bien évidemment, en matière de publication, il y a outre le catalogue de l'exposition de Chloé Follins aux éditions Vendémiaire dans la collection Ciné Patrimoine Concept, les Métamorphoses d'Henri-Georges Clouzot. Et puis alors en matière de DVD Blu-ray, alors là Monsieur Rouillé, là, on n'en peut plus là.
Bah oui,
on est submergé.
Il y a l'intégrale en DVD chez TF1 Vidéo. Manque juste en fait les films avec Karajan. Hein. Voilà. Alors ça c'est nécessaire. Certains films sont déclinés en Blu-ray chez leurs éditeurs respectifs. C'est-à-dire que TF1 s'est en fait associé avec d'autres éditeurs. Par exemple, le studio Canal propose en Blu-ray et aussi en DVD parallèlement au coffret La Prisonnière, Le Corbeau, Quai des Orfèvres. TF1 lui-même sort dans sa luxueuse collection qui est la collection Héritage, vous savez, les Digibooks.
Panique de Duvivier, notamment.
Voilà, on en avait parlé ici. Rocco et ses frères étaient admirables. Et on avait parlé des Miller, Garde à vue.
Absolument.
Garde à vue. Et
Mortelle Randonnée.
Mortelle Randonnée. François, c'était pour vous.
Certes, grand moment.
Et donc, dans cette formidable collection Héritage, donc Digibook, Blu-ray, DVD, il y a les deux films, j'allais dire centraux de Clouzot, qui sont Le Salaire de la Peur et Les Diaboliques. Et puis il y a d'autres, il y a encore chez Arte, il y a Le Mystère Picasso, et chez Montparnasse, il y a Manon. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et puis chez Lobster, autre coffret très important qui s'appelle Clouzot avant Clouzot, où ce sont alors des films qu'a écrit Clouzot et parfois qu'il a co-réalisé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Clouzot, au début des années 30, en fait, est en Allemagne, où il est censé travailler à l'adaptation française des films. Vous savez qu'à cette époque-là, on fait pas vraiment du doublage ou on fait pas vraiment de sous-titrage, mais on retourne les films avec des acteurs des différentes nationalités. Et par exemple, c'est un coffret avec 6 DVD. Dans le 6e DVD, je vous recommande Château de rêve, qui est une espèce de conte, ce qu'on a défini comme une opérette sans chanson, et dont il a fait la version française, c'est-à-dire qu'il a réalisé tous les plans avec des comédiens. tous les plans avec des comédiens, c'est lui qui les a réalisés. Donc on peut considérer que c'est en quelque sorte le premier long métrage de Clouseau, même si c'est dans des décors qu'il n'a pas choisi, il n'a pas choisi les comédiens, il est vraiment sur la trame d'un autre, mais techniquement, il se forge son métier de cinéaste et déjà il est au contact des acteurs. Et dans ce coffret, il y a une perle que je vous recommande,
rare, comme toutes les
très perles. Rare, c'est un film qui a été retrouvé, qui est son premier court-métrage, La Terreur des Batignolles, qui dure 15 minutes, qui est avec un acteur comique du musical qui s'appelle Brico, voilà, que j'ai découvert dans ce film, et qui est un gangster très maladroit. Au début du film, je vais pas vous raconter le film, mais il va cambrioler une maison dont les propriétaires sont absents et il tremble comme une feuille. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le film commence presque comme un film expressionniste, un film de 1931, scénario de Jacques de Baroncelli, avec qui Clouseau va travailler en Allemagne, et ça ressemble presque à un film expressionniste, des morceaux de maison. C'est inquiétant, c'est la nuit, et puis des pas dans les feuilles mortes, et puis dès qu'on voit le personnage, on commence à comprendre qu'il y a de l'humour. Et le film fonctionne un peu comme les Diaboliques, c'est-à-dire que c'est à tiroir, il y a une série d'intrigues dans l'intrigue, et l'idée c'est que le spectateur, comme les personnages, se font piéger par les autres personnages du film. C'est-à-dire que c'est assez machiavélique, et même si c'est drôle et distancié, il y a déjà l'idée d'une construction un peu sophistiquée. C'est très très intéressant à regarder.
Eh ben bravo de nouveau
à Lobster.
Lobster, parce que là vraiment c'est un grand apport dans la connaissance la plus approfondie qui soit d'Henri-Georges Clouseau. Alors on va quitter la télé Batignolle et leur terreur pour retrouver d'autres terreurs, ceux de Las Piedras en Amérique du Sud, le salaire de la peur.
Une simple goutte de ce liquide. Quatre hommes vont jouer leur vie au volant de ces camions. Ils atteindront les limites du danger, du courage et de la peur. Mario.
Joe.
Monsieur Joe.
Et si les flics veulent me mettre ça sur le dos, they will not have a chance. In se baba.
Luigi.
Champagne. Spookmante.
Bimba.
Si je dois faire un macabé, autant que ce soit un macabé présentable.
Igualito. Verdad que se parece?
Une ville d'Amérique du Sud écrasée par le soleil.
Voilà, bande-annonce du salaire de la peur, Las Piedras, reconstitué en Camargue, à la suite d'une aventure brésilienne un peu difficile.
Ben vous avez raison de préciser ça, parce que le salaire de la peur, parce qu'il a été Palme d'Or à Cannes, Ours d'Or à Berlin, à l'époque on pouvait cumuler les grands festivals, évidemment c'est fini maintenant, a un côté presque film classique. Dans l'esprit de la cinéphilie française aujourd'hui, et moi j'ai eu envie de le choisir parce qu'il me semble qu'au contraire c'est le moment où vraiment Clouseau va commencer à se livrer à des expériences, et vous avez raison de parler du Brésil, parce que juste avant il a échoué à faire un film au Brésil qui s'appelait Brasil, qu'il voulait tourner pendant son voyage de noces avec Vera Clouseau. Donc il vient d'épouser Vera Clouseau, qui est d'origine sud-américaine, et il l'emmène en voyage de noces au Brésil avec l'idée de faire un film avec elle, etc. Et ils vont y rester un long moment, et faute d'autorisation, ça va pas pouvoir se faire. Mais il revient en France avec vraiment cette envie d'Amérique du Sud, et quand il va tomber sur le livre de Georges Arnaud, justement à cause de Las Piedras qui est le lieu où se situe l'action en Amérique du Sud, il se dit c'est absolument, je vais faire ça, et ça va être ma façon pour moi d'en parler, et puis comme ça je peux trouver comme local un rôle à Vera Clouseau, même si le paradoxe c'est un film d'homme, et de tout ça il reste quelque chose d'assez fascinant. La première chose, c'est que finalement l'Amérique du Sud est reconstituée en Camargue. Et elle est reconstituée de manière assez hallucinante. C'est-à-dire que d'un côté, on fait venir effectivement des palmiers dans des pots On notera au passage que celui qui a fait ça, c'était pas l'Amérique du Sud, c'était le Vietnam, c'est Kubrick, hein, qui pour Full Metal Jacket reconstitue le Vietnam à Londres, enfin dans la banlieue londonienne. Non mais c'est très intéressant parce que je pense que c'est Gianoli dans le bonus qui fait un parallèle entre Kubrick et Clouseau qui me semble tout à fait intéressant. Des cinéastes de la maîtrise qui s'intéressent à des histoires où justement les personnages perdent leur maîtrise. Et y a quelque chose de ça. Et donc, le tournage va être un truc hallucinant. C'est-à-dire que ça va durer un an et demi parce que le décor qui fait construire, est pharaonique. Et au lieu de tourner début juin, ils ne sont prêts qu'à la mi-juillet. Et là-dessus, il y a des inondations fin septembre, fin août, qui vont durer 40 jours, comme dans la Bible. Et résultat, le tournage est interrompu. Ils n'ont que 35 minutes de film. Et le film en fait 2h35. Donc la production va s'arrêter. Des millions et des millions ont déjà été engloutis. Il va falloir un nouveau producteur pour relancer le tournage le mois de juin suivant. Et c'est pendant l'été suivant, donc pendant l'été 52, que vont être tournées toutes les scènes de camion. Aujourd'hui, quand on voit le film, c'est très intéressant sa composition. C'est-à-dire que la première heure est dans le village. C'est-à-dire que c'est le salaire de la peur avant que ça commence. Quand on vous parle du salaire de la peur, on pense évidemment à ces quatre camionneurs avec leurs deux camions qui trimballent de la nitroglycérine pour arrêter l'incendie dans un puits de pétrole. Ils doivent faire 600 km dans la jungle. Mais avant ça, il y a cette première heure qui est tout à fait extraordinaire où on voit les rapports entre les personnages et j'incite les gens qui croient connaître le salaire de la peur de le revoir. Et de le revoir comme un film qui n'est pas si classique que ça. Pour commencer, alors que c'est un film qui donc sort en 53, c'est un film sans musique autre que diégétique. C'est-à-dire qu'on a pas mal de musique dans la première heure parce qu'ils écoutent la radio. On a de la musique à la fin. Je vous raconterai pas comment, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais c'est le beau Danube bleu. Encore un lien avec Kubrick, pourquoi pas. mais le reste du temps, et notamment toutes ces scènes terriblement acrobatiques avec les camions, qui auraient pu facilement être dramatisées dans des océans de musique, il n'y en a pas. Un moment, il y a quand même une énorme explosion et des personnages qui disparaissent, on ne va pas dire lesquels, on ne les voit pas, on n'est pas avec eux. C'est-à-dire qu'il y a simplement, un plan sur une cigarette que le personnage de Charles Vanel est en train de se rouler, et floute, tout le tabac est parti parce qu'il y a eu un souffle. Et on voit un nuage, des flammes au loin, et c'est tout ce qu'on verra. C'est totalement étonnant.
Cinématographiquement, mais c'est
oui,
génial, ça.
Le film est complètement bourré de trouvailles comme ça, où finalement la narration est malmenée. Et toutes les expériences avec l'art moderne, dont on parlera en deuxième partie d'émission vers la fin de sa vie, pour moi, elles naissent dans cette fosse au pétrole où vont s'enliser tour à tour Vanel et Yves Montand. Et voir Charles Vanel complètement enduit de pétrole, il y a quelque chose. Alors au départ, le chef op, c'est Tirard, avait dit, Armand Tirard, à Clouseau, t'as qu'à prendre de l'eau avec des encres pour faire. Et Clouseau ne veut pas parce qu'il veut une texture qui à l'écran, quand les corps y entrent, mais aussi quand les pneus du camion y entrent, on voit ça à l'image. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Le film est à la limite de l'abstraction par moment. Il y a pas de musique de film, mais si on ferme les yeux, il y a toute une musique des freins, des camions qui augmentent, qui rétrogradent, etc. Et puis, il y a une symphonie de gros plans sur des objets, des gros plans sur... Alors, vous allez me dire, c'est les règles du suspense. Et là encore, il va rentrer dans les pas d'un Hitchcock qui croisera juste après les diaboliques via Boileau Narcejac. Mais il y a autre chose qu'Hitchcock. Et les relations entre les personnages sont extraordinairement creusées. On s'aperçoit que il y a une relation sadomasochiste entre Charles Vanel et Yves Montand, qui sont clairement un couple gay. C'est quelque chose qui, dans le cinéma du français des années 50, est pas si évident que ça. Et le personnage vraiment de Vera Clouseau est renvoyé aux utilités. C'est-à-dire que c'est la fille avec qui on va coucher comme ça, vite fait, qui va vous faire la tambouille et vous recoudre vos boutons de culotte. Et comme dit Charles Vanel, les filles, c'est pas pour des gars comme nous. Voilà, c'est quand même, comme dialogue, tout est dit, quoi.
Hubert Prolongeau.
Oui, alors moi c'est un film que j'aime bien évidemment. Il y a tout ça. Je trouve que Clouseau se laisse un peu piéger par un espèce d'exotisme parfois facile. Et je suis moins d'accord avec Philippe sur cette espèce de oui presque. Et qu'il y a des moments où on est à la limite de se rapprocher des orgueilleux, qui est l'archétype du film.
Qui lui fait beaucoup plus tonka.
Non, mais tout à fait. Je dis pas que c'est du même niveau. Mais, y a ça qui m'a toujours un peu gêné, dans le début. Et puis, je trouve pas qu'Yves Montand soit très très bon. Et Clouseau s'est parfois heurté avec Vera à chaque fois, mais là, l'amour peut excuser, ses légères défaillances. Montand, je trouve, comme il est d'ailleurs dans la plupart des films de ses débuts, un peu hésitant, un peu maladroit, un peu, et ne réussit pas à transformer ça.
C'est tout à fait intéressant parce qu'il joue un type qui se cherche. C'est un type qui, au début, a peur et qui va se révéler à l'épreuve du danger. Et ce côté un peu fier à bras, je trouve que, c'est pas après qu'on aurait pu faire d'Yves Montand une icône gay. Le voir en espèce de Marcel, les cuisses écartées sur son paddock, excuse-moi, il faut qu'il y ait une certaine maladresse pour que ça passe. Et c'est vrai que Clouseau a dû s'employer pour le convaincre de jouer dans le film, parce qu'après l'expérience malheureuse des Portes de la Nuit, il avait peur que sa maladresse au cinéma nuise à sa carrière d'artiste de musical, ce qu'on peut comprendre. Mais il me semble que Clouseau intègre ça. Et par rapport à Vera Clouseau, il en fait une espèce de... À la fois, les hommes du film la méprisent, mais on sent que le cinéaste est un peu Portland Désir. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de soumission qui est assez hallucinant. Enfin, je veux dire, on la voit, elle passe son film à quatre pattes, en train de dodiner du postérieur et de briquer le sol, c'est quand même des plans assez sulfureux. Hein.
Mais est-ce que ça vient pas aussi d'une lucidité de Clouseau, qui était un directeur d'acteurs admirable par ailleurs, à sentir aussi les limites de cette femme qu'effectivement il aime, qu'il place en vedette dans plusieurs de ses films, sans pour autant jamais, comme Sternberg avec Dietrich, comme pouvoir la métamorphoser et en faire une star inoubliable.
Oui, mais l'important c'est que là, il lui donne un second rôle et que le second rôle est formidable. Inoubliable.
Moi, je voulais rapidement rebondir. Philippe a grosso modo dit tout ce que je pensais sur le film aussi, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de balayer un petit peu l'étiquette de cinéaste à papa qui a souvent été accolée à Clouseau.
J'aimerais savoir comment on en est arrivé là, parce qu'à revoir ces films.
Je pense que c'est une espèce d'automatisme dû à la multidiffusion de ces films à la télé.
C'est une question d'époque. Voilà. C'est le cinéma de papa, la nouvelle vague arrive, on balaye tout le monde et échec, réussite, grand cinéaste, tâcheron, tout part avec la même vague.
Adaptation littéraire.
Et puis on le disait aussi en début d'émission, vu que c'est un cinéma familial dans le sens où beaucoup de personnes l'ont découvert à la télévision accompagnées de leurs parents. Il y a quelque chose d'un peu Madeleine de Proust et de nostalgique. Alors qu'effectivement, quand on revoit aujourd'hui un film comme Le Salaire de la Peur, on mesure le degré d'expérimentation, le degré de recherche plastique. Et effectivement, il y a un lien qui est assez évident avec un film que je vais évoquer un petit peu plus tard, à savoir la Prisonnière. À savoir cette recherche cinétique constante qui est en tout cas au centre même du Salaire de la Peur.
Avec notamment des idées absolument géniales, parce que pour évoquer l'explosion d'un camion de nitroglycérine, qui est une sorte d'élément, un cataclysme absolument redoutable, qu'est-ce qu'il utilise? Il n'utilise pas le plan large, il n'utilise pas l'abolition, la neutralisation d'un paysage, il utilise simplement une dose de tabac gris dans du papier à rouler qui est soufflée d'un coup par un coup de vent extérieur. Et ce coup de vent, c'est l'explosion du camion. C'est quand même génial d'arriver à rendre compte d'un phénomène aussi considérable, aussi traumatisant et apocalyptique par un micro-événement totalement anecdotique. Là, on est quand même dans le génie. Et puis la fameuse scène centrale où effectivement, de par l'explosion du camion, un lac de pétrole, bien un potage noir et bien épais s'est formé, et que donc ils n'arrivent pas à le traverser. Enfin, ils y arrivent, mais justement avec des conséquences redoutables, c'est-à-dire l'écrasement de la jambe de Vanel. Il y a quand même dans cette séquence le spectacle qui est pratiquement celui d'une œuvre d'art d'aujourd'hui, du pipeline qui a explosé et qui crachote des jets de pétrole comme ça. Et qui, à mon avis, incarne bien, c'est presque un paysage métaphysique, c'est presque un paysage surnaturel, la vision des choses de Clouzot, c'est-à-dire quelque chose de rompu, de noir, et qui empoisse, je dirais, le paysage et les personnes qui ont le malheur de s'y aventurer. C'est quasiment une scène qui déborde le film d'aventure pour aller dans une espèce de métaphysique implicite.
C'est complètement ça, et on comprend pourquoi Friedkin s'en emparera pour faire Sorcereur, où il va pousser cette dimension-là dans le métaphysique. Et c'est très intéressant de voir comment, à chaque fois, Friedkin fait des choix différents de Clouzot. Les films sont complémentaires, c'est-à-dire que Friedkin, lui aussi, va attendre dans Sorcereur, donc le Convoi de la Peur, 77, il va attendre avant de lancer ses camions dans la jungle, mais lui, il fait le choix de présenter les personnages, c'est-à-dire que chacun des quatre, on apprend d'où ils viennent, quel est leur passé et qui les a amenés dans cette cité perdue. Et puis les intrigues sont aménagées. La fameuse scène du pont de Liane chez Friedkin, là on en trouve avec c'est l'idée du pont de bois sur lequel il faut faire demi-tour. Mais Friedkin déboule directement dans la métaphysique à la fin avec ce personnage de Roy Scheider qui sort du temps. On en avait parlé plusieurs fois.
C'est un film sur le temps et le temps historique et la sortie du temps.
Et là, on peut voir comme une relecture de la fin du Salaire de la Peur. Vous avez vraiment raison de parler de ça. Et le transfert en Blu-ray rend justice enfin à la lumière du film. Moi, je sais que j'avais vu le film comme ça, et le film avec ses matières, la scène où on traverse la forêt de bambou, qui est là pour le coup, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est une véritable forêt de bambou qu'il a filmé, a quelque chose. On se croirait presque chez Kurosawa par moment. Hein. Cette abstraction là. Cette manière de cadrer le réel est un pied vers la métaphysique qui est en germe dans la fin du film.
Et d'ailleurs, ce sont ces images métaphysiques qui sont devenues des icônes dans le cinéma de Clouzot. Celle du puits de pétrole est peut-être la plus connue, celle de la lampe qui balance entre le bien et le mal dans le corbeau aussi. Et donc, spontanément, ce qui est resté dans la mémoire, c'est ça, c'est cette métaphysique qui affleure partout.
Montant qui tient Vanel, un peu comme une forme de Pietà industrielle qui déplace un peu, je dirais, la question. Mais qui garde
cette image, c'est Bong Joon-ho dans les bonus qui en parle, comment ça l'avait frappé enfant quand il avait vu le film à la télévision, cette idée que de la jambe broyée de Vanel, c'est-à-dire qu'il y a une forme dans le pantalon. Il y a une forme et une forme qui flotte. Et là encore, c'est presque comme si c'était une espèce d'œuvre d'art. On ne sait pas ce que c'est que cette matière. En fait, c'est cette jambe broyée. Et lui-même, avec son couteau, va déchirer son pantalon pour essayer de travailler cette matière-là. Bien des plans seraient presque des photogrammes, presque à exposer dans des galeries.
1952, Le Salaire de la Peur. Et on change totalement, je dirais, d'univers, de catégorie de film et d'ambition esthétique. En 1955, avec Les Diaboliques.
Tu trouves que c'est un dîner pour des gosses en pleine croissance? Un rond de saucisson et deux cuillerées de purée?
Ils n'avaient qu'à manger ce qu'on leur donne. Quand ils font leur service.
T'es pas adjudant, t'es marchand de soupe.
Je l'ai pas acheté pour 3000 francs de Colin.
Tu préfères les rendre malades?
Quand j'étais môme, on m'a acheté du merlan. Le Colin, c'était trop cher. Il leur faut du poisson de riz, je leur en achète. Mais au prix que je peux payer.
Tu as tort de l'acheter au rabais, comme les latins. Poissonnier est moins bête que nous, il t'en donne pour ton argent.
Mais ce n'est pas son argent, c'est mon argent. C'est moi qui paye tout ici. Je paye le concierge, je paye Monsieur Drin, j'ai même payé Germaine, Sabine, Thérèse. Je te paye, Nicole. Je l'accepte, je me tais. Mais quand il s'attaque aux gosses, non. Là, je me révolte, je... Je ne peux pas être complaisante.
Calme-toi, mon chéri. Tu sais bien que ça ne te vaut rien.
Je pouvais crever pour de bon et ne plus le voir.
Va, crève, ma chérie. Crève bien vite. On te fera un bel enterrement et on sera bien débarrassé. La boutique s'en portera pas plus mal et moi, je m'en porterai bien mieux.
Bon, eh ben mes petits-enfants, amusez-vous bien. Moi, je me lève de très bonne heure de me mettre.
Voilà, comme on dit, ambiance, le dîner du soir dans l'institution de la salle. Les enfants sont partis se coucher. Manu Militari, expulsé Manu Militari de la cantine par messieurs Larquet et Serrault qui jouent les professeurs, qui sont en même temps pions, parce que c'est une institution où on économise l'argent. Et puis restent les trois protagonistes essentiels. Vera Clouseau qui joue, eh ben, d'une certaine façon, le porte-monnaie et la femme martyr, puisqu'elle a épousé Paul Meurice, qui dirige l'institution, mais avec un sens certains de l'avarice, de la dictature et d'une certaine perversité supplicielle. Et puis Simone Signoret, qui est la professeure d'anglais et qui ou de mathématiques, je ne sais plus, tout le monde enseigne un peu tout dans l'institution de la salle, et qui est la maîtresse de Paul Meurice. Et donc ces trois personnages vont constituer le cœur du film. Donc un film de 1955 qui est tiré d'un roman de Boileau Narcejac que devait adapter Hitchcock, et tout compte fait c'est Clouseau qui s'en empare, et qui est à l'opposé du Salaire de la peur, un film d'intérieur, un film du confinement, un film de l'étouffement, de la claustrophobie et de l'angoisse. On n'est plus dans des paysages sud-américains dévastés par le soleil, avec des explosions gigantesques, nitroglycérine, des dériques en feu. On est dans la province française, et dans une province française qui est la tanière, le terroir d'une bourgeoisie totalement déconfite et décomposée. Puisqu'effectivement, il y a d'abord l'institution de la salle qui nous est montrée immédiatement comme un lieu, je veux dire, qui n'est pas entretenu, qui est rongé, qui est corrodé, où tout s'effondre un peu, avec un personnel qui est composé d'enseignants qui ont été, c'est le cas de Simone Signoret, renvoyés de l'éducation nationale. On devine que les gens qui sont employés là, soit n'ont pas réussi à vraiment à décrocher de diplôme, enfin, c'est un peu des rebuts de l'éducation. Et puis cette figure très extrêmement impressionnante de Paul Meurice, qui est un ancien tennisman qui visiblement, dont la carrière visiblement a échoué, un homme à femme et un intrigant, un personnage redoutable, et qui justement fait régner la terreur à l'intérieur de cette institution. Donc déjà là, on a un endroit cloisonné. On retrouve également un monde de l'enfance qu'on avait déjà dans Le Corbeau, mais géré d'une autre façon, puisque là les enfants sont plutôt distants, sauf l'un d'entre eux qui a des espèces intuition qui voit ce que les autres ne voient pas. Donc déjà, le contraire du Salaire de la peur, un monde confiné, un monde véritablement dévoré par le mal, par l'envie, la cupidité et la médiocrité. Et à l'intérieur de tout ça va se mettre en place une intrigue criminelle. Mais l'essentiel, à mon avis, n'est pas tellement dans l'intrigue, que je ne résumerai pas, puisque on va pas déflorer le sujet, même si le film est quand même a été abondamment diffusé. Donc
c'est ce que demandait Clouseau à la
voilà,
fin.
Voilà, surtout n'en dites pas plus, mais je reviendrai à la phrase de Barbet d'Aurevilly que je citais au début de l'émission. Une peinture est toujours assez morale quand elle est tragique et qu'elle donne l'horreur des choses qu'elle retrace. C'est-à-dire que Les Diaboliques, c'est le titre d'un film de six nouvelles de Barbet d'Aurevilly. Et là, c'est le même but que poursuit Clouseau, c'est-à-dire donner une vision horrifique et horrifiante de la nature humaine, non pas de manière à distraire, mais de manière à emporter le spectateur dans son horreur et dans une espèce de vision nihiliste et janséniste. Et l'aide à tout cela, les objets eux-mêmes, puisque un des plans les plus étonnants au début, c'est quand la voiture de la salle écrase un petit bateau en papier tout blanc, avec d'une blancheur vraiment virginale, qui est écrasé par la roue de la voiture dans la flaque de boue. D'une certaine façon, tout le film est résumé. Le petit bateau, c'est à la fois les enfants qui sont pervertis, c'est à la fois Vera Clouseau qui est martyrisée, et puis la boue et la voiture et le pneu, on retrouve peut-être là la thématique du Salaire de la peur, c'est la méchanceté, la cruauté, la gratuité du mal. Et ça, c'est le sens du film. C'est un grand film, on peut le dire, sur la société française, puisque un autre élément, c'est la province. À un moment, les deux femmes vont se réfugier à Niort, et c'est la ville natale de Clouseau. Donc, il fait un portrait de la bourgeoisie provinciale, qui est totalement au vitriol, avec notamment Noël Roquevert, qui écoute Zapimax à la radio, et qui montre bien la médiocrité, le confinement, là aussi, de la bourgeoisie provinciale. Et ensuite, eh ben, on décroche un peu de la société, même s'il y a l'apparition de grands bourgeois de la médecine, même s'il y a l'apparition de Vanel en inspecteur à la retraite qui collabore à l'enquête. C'est un film sur le mal et sur l'espèce de vocation intime que l'homme a à la destruction de son prochain. Philippe Houillet.
Oui, moi, j'y vois vraiment le film miroir du Salaire de la peur. C'est-à-dire que c'est un film de femme comme l'autre était un film d'homme. Et vous avez raison d'opposer la France à l'Amérique du Sud, l'intérieur aux extérieurs. Mais justement, les deux se répondent. Vous avez cité ce plan du Pneu dans la flaque de boue qui est presque, on pourrait isoler un photogramme.
Un plan à l'ouverture.
Et on pourrait croire qu'il vient du salaire de la peur. Mais c'est aussi l'intelligence des femmes par rapport à la force des types dans leur camion. Et finalement, l'un prend des allures de film d'aventure, l'autre prend des allures de film policier ou à suspense. Pour avant tout s'intéresser à la nature humaine.
Voilà.
C'est là le sujet. Et je trouve très intéressant de les mettre, en fait, dans une sorte de diptyque. Et les deux films se répondent. Les deux films, il les fait à la suite. Et ça fait partie, je veux dire, les recherches qu'il fait en s'appuyant sur Boileau et Narcejac, mais en étant très loin d'eux, hein, parce que le roman est très travesti. C'est pas la même personne qui meurt, enfin, entre le film et le livre.
Donc tout
est renversé cul par-dessus tête. C'est vraiment un film de recherche. Et ce qui est formidable, peut-être, avec ce diptyque de Clouzot, c'est qu'il porte le cinéma français à un truc de box-office, de grand public, où tout le monde... Et en même temps, c'est un film de recherche. Pas de recherche pure, parce qu'il y a encore... il est dans un cinéma-spectacle, mais dans ce spectacle-là, sa mise en scène s'épanouit et permet la recherche. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel.
Faustoff, Hubert ?
Oui, et c'est intéressant, parce que c'est un film... deux mises en scène qui finalement se moquent du twist très très astucieux qu'il y a. On vit aujourd'hui avec une culture très martelée par les séries télé, spoiler une série est le crime majeur qui puisse arriver. Et là, il y a une astuce effectivement extrême. Et en fait, on peut revoir le film en la connaissant et on s'en moque parce qu'il évacue cette histoire et que tout est centré sur les rapports entre les personnages et sur la manière dont il raconte. Donc c'est vraiment aussi un film de conteur qui sait se débarrasser du côté superficiel et pour aller directement à l'essentiel qui est une vision du monde.
Fausto ?
Oui, juste une anecdote cinéphile. En fait, il y a quelques années, Man Movies avait consacré un hors-série...
À Clouzot.
Non, pas à Clouzot, mais on avait interrogé 40 réalisateurs pour les 40 ans du magazine et on leur avait demandé en fait quelle était leur image traumatique en fait et même séminale en fait de leur propre création. Et Sergio Martino, donc réalisateur de thriller italien, à la queue du scorpion, entre autres choses, avait cité l'image de Paul Meurice en fait dans Les Diaboliques, dans La Baignoire.
Et qui est encore un corps dans le liquide, hein. C'est encore un lien avec le salaire de la peur. C'est-à-dire que il y a tout ce travail, la piscine, la baignoire, la piscine qui a les feuilles mortes sur le dessus. Donc
c'est
encore
le générique d'ouverture.
Oui, c'est le générique d'ouverture.
C'est une eau croupissante.
Voilà, il y a quand même là encore un travail sur la tessiture des eaux. Et il avait expliqué Clouzot à Boileau Narcejac qu'il avait choisi la piscine parce qu'il n'y avait pas de piscine dans leur histoire. Il dit parce que comme ça, quand on y met un corps, ça fait des ronds dans l'eau, et quand le corps a complètement coulé, ça redevient lisse. Ce travail sur l'onde à la surface de l'eau est quelque chose qui déjà l'intéresse.
Et d'autant plus que on veut traduire le dépérissement d'une institution et l'effondrement du standing d'un lieu. La piscine, c'est parfait parce qu'on peut pas changer l'eau, et donc l'eau devient sombre, croupissante, assez infâme. Et une piscine désolée, c'est plus désolé que n'importe quoi. Et là, il a très bien senti la chose. Messieurs, un dernier mot sur les diaboliques. On parle.
C'est un thriller qui reste d'une modernité totale en fait. Quand on le revoit aujourd'hui, c'est un film dans lequel des milliers de cinéastes peuvent puiser indéfiniment tellement il reste parfait.
Et ils se gênent pas pour le faire. Hein,
d'ailleurs,
sans parler du remake
totalement ridicule qu'il y avait eu avec Adjani et Sharon Stone.
Et Sharon Stone.
Voilà la bande-son de La Prisonnière qui nous montre que Clouzot était aussi fin mélomane et amateur de musique contemporaine que fin connaisseur de la peinture de son temps, puisque les musiques sont signées Gilbert Ami, Anton von Webern, Xenakis, Berlioz et Gustav Mahler. Voilà, Fausto, La Prisonnière. Alors, La Prisonnière, effectivement, c'est un peu déjà un compendium de tout ce qui peut être la modernité à la date de ou la proche modernité à la date de sortie du film.
Oui, oui, complètement. Juste un petit peu planter le contexte dans lequel le film a été fait. On va remonter 4 ans avant. Donc, La Prisonnière, c'est 1968, 1967, 68. Ouais, il faut savoir qu'en 1964, Clouzot est contraint d'abandonner un film qu'il voulait d'un genre nouveau, c'est L'Enfer. C'est une production sulfureuse, expérimentale, libre et dotée de moyens illimités offerts par la Columbia. Voilà, il devait faire tourner Romy Schneider et Serge Reggiani, et malheureusement, le titre était tout à fait prophétique, puisque le tournage se complique avec le départ de Reggiani qui est dépressif et épuisé, et bien évidemment, tous les historiens le savent très bien, Clouzot est physiquement et nerveusement à bout, et il est victime d'un infarctus. Les assurances décident de ne plus le suivre, et c'est fini, clap de fin pour L'Enfer. Et pour Clouzot, c'est donc très très difficile. Entre 64 et 68, donc juste avant de commencer le tournage de La Prisonnière, il filme le chef d'orchestre Herbert von Karajan dans 5 concerts filmés à la télé française. Il écrit un scénario aussi sur le nu photographique qu'il ne tournera donc jamais, et il rédige aussi le script de La Prisonnière qu'il va enfin tourner. Donc La Prisonnière, c'est son premier film en couleur. Il avait déjà touché à la couleur justement avec les concerts filmés de Herbert von Karajan. Et c'est un film qui a été tourné donc en pleine libération sexuelle. Le scénario est assez simple. En fait, c'est un triangle amoureux. La Prisonnière raconte l'histoire d'un couple libéré. Gilbert d'un côté, donc incarné par Bernard Fresson, qui est un artiste cinétique. Sa femme José, incarnée par Elisabeth Weiner, qui est une monteuse pour la télévision. Mais entre les deux, il y a un personnage qui est tout à fait fascinant, qui cristallise justement le goût de Clouzot pour les figures maléfiques. C'est le personnage de Stan, qui est incarné par Laurent Terzieff, qui est un jeune marchand d'art qui souhaite révolutionner le marché en adoptant des méthodes commerciales agressives et avant-gardistes. Alors, ce Stan-là, c'est vraiment le personnage clé du film, puisqu'il nourrit une passion secrète. Il collectionne les clichés sadomaso qu'il prend lui-même lors de séances entièrement chorégraphiées selon ses pulsions. Donc là aussi, on retombe encore sur cette idée sadomaso qui était déjà présente dans la filmographie de Clouzot, mais qui n'avait jamais été évoquée aussi frontalement. Cette thématique-là aurait dû être évoquée frontalement dans L'Enfer. Malheureusement, le film n'a jamais pu voir le jour. Et tout se complique dans l'histoire quand le personnage de José donc tombe par hasard, point d'interrogation, sur l'une de ses photos lors d'une soirée. Et José devient donc obsédé par ce cliché, par les pratiques SM et aussi par celui qui les lui a fait découvrir. Donc ça c'est pour le scénario. Ce qui est intéressant quand on voit aujourd'hui en fait La Prisonnière, c'est qu'on fait un lien immédiat avec ce que le cinéma italien d'un côté et aussi le cinéma japonais de l'autre nous ont donné au même moment. Le cinéma italien, effectivement, avec le giallo. Alors, c'était intéressant, je vous ai évoqué tout à l'heure Sergio Martino qui évoquait les diaboliques comme une œuvre matricielle du giallo. Là, on se retrouve avec un film qui effectivement fait écho avec tout un pan de la production italienne, qui l'anticipe même d'une certaine façon, hein, quand on voit un film comme Oiseau au plumage de cristal de Dario Argento qui s'ancre dans un contexte artistique comme celui de La Prisonnière. On se dit que peut-être Dario Argento a vu La Prisonnière avant de faire son film. On pense aussi à toute une partie du cinéma japonais qui est le pinkuega, les films érotiques. On pense à un film qui s'appelle La Bête aveugle aussi de Masumura avec cette idée de SM. Donc c'est vraiment un film qui est le pur produit de son époque, qui est aussi le pur produit des obsessions de son auteur. Et c'est vrai qu'on dit que on a souvent écrit et dit que c'était un film sur un personnage qui était complètement rongé par ses pulsions. Mais moi j'y vois plus un film en fait sur l'égoïsme. C'est un grand film sur l'égoïsme puisque en fait c'est pas un portrait d'un obsessionnel, c'est un portrait de 3 obsessionnels. On a à la fois le personnage qui est incarné par Fresson qui est lui obsédé par son art au point de délaisser sa femme. On a sa femme donc José qui elle est complètement obsédée par l'amour, en tout cas l'idée qu'elle peut s'en faire. Et on a le personnage de Stan qui est lui complètement obsédé par la domination et la possession. Donc en fait plus que la jalousie, c'est vraiment un grand film sur l'égoïsme, je crois.
Et c'est aussi une sorte d'autoportrait parce que le personnage de Terzieff renvoie bien sûr à Clouzot parce que il avait un projet de livre sur un photographe, mais surtout il a eu un projet de livre et lui-même a fait des photos de nu et dans le très bon livre, là, le mystère Clouzot, qui va avec l'exposition, donc le livre qu'a coordonné Nolerp chez Lien Art Cinémathèque, il y a tout un article sur Clouzot photographe avec des clichés. Moi, je les avais jamais vus, parce que c'est le fonds d'archives Clouzot qui débarque à la Cinémathèque française, qui commence à être exploité par les chercheurs, et on les a, les fameuses photos de nus. Et elles annoncent tout à fait les photos de nus qu'il y a dans le film. Après, moi, ce que je trouve très intéressant avec la démarche de Clouzot, que ce soit dans l'enfer ou dans La Prisonnière, c'est comment il veut faire rentrer l'art moderne dans son cinéma, plutôt que d'essayer de faire basculer son cinéma dans la modernité. C'est-à-dire qu'on est quand même en 68, dans ce moment, post-Nouvelle Vague. Et lui, il se positionne pas dans ce moment-là. On n'est pas chez Rivette, on n'est pas dans ce genre de cinéma-là. Il reste dans un... comme tu l'as très bien dit, dans un triangle amoureux, et c'est dans ce triangle amoureux qui pourrait être traité de manière très classique qui va faire rentrer les œuvres d'art, que ce soit musicalement, comme on vient de l'entendre, ou les photographies, ou les œuvres. Et c'est ça qui est assez fou et qui rend le film un peu bizarre, un peu dérangeant. C'est un film, moi, que je trouve très passionnant, qu'il faut revoir, qui a des leçons à nous donner sur le cinéma de Clouzot.
Avec notamment des œuvres de Bernard Riquichaud, de Belmer et Louise Nevelson, extrêmement énigmatiques et qui traduisent bien les angoisses du cinéaste. Termine avec Les Espions, qui opportunément dans les nouvelles éditions vidéo, Hubert Prolongeau, ont été livrés avec un bonus de Tardy, car oui, en effet, c'est peut-être un chef-d'œuvre d'Edgar P. Jacobs qu'on ignorait.
Exactement. Et c'est un film, en fait, c'est le grand film méconnu et incompris de Clouzot. Ça a été un échec commercial cinglant. Henri Janson avait, en une phrase extrêmement injuste, dit Clouzot a fait Kafka dans sa culotte.
On l'a connu mieux, Janson. Oui.
C'est vrai. Peut-être
la formule est drôlement restée, c'est un sacré poison. Hein.
Et tout le monde continue de l'appliquer à ce film, qui en fait qu'on diffuse moins que d'autres et qui est rarement cité par les gens comme un de ces grands films, ce qu'il est à mon sens. Donc c'est un film que Clouzot voulait tourner il voulait adapter Le Procès de Kafka, et puis il n'a pas eu les droits dont Orson Welles a hérité. Il s'est tourné vers un roman d'un auteur totalement inconnu, Egon Ostovsky, qui s'appelle Le Vertige de minuit, dont, comme pour Les Diaboliques, il lui-même ne se souvient plus très bien. A retenu juste une situation de départ, et cette situation est la suivante. Dans une province, une clinique psychiatrique est gérée par un médecin des plus médiocres, alcoolique, visiblement incompétent, et qui a deux patients, et des patients dont on sent que leurs familles ont voulu s'en débarrasser. Donc il y a un toxicomane et une folle muette. Et arrive un jour un inconnu qui lui fait une proposition, lui dit « Voilà, je vous donne $5,000, mais il faut que vous accueilliez un espion, un nommé Alex, qui va venir. » Le docteur accepte, l'homme tente de le prévenir que peut-être ça va un peu perturber son existence, et effectivement, à peine il a accepté le Alex, que débarque dans la clinique un certain nombre de personnages totalement déjantés pour beaucoup, et qui ne savent pas très bien où ils vont. Et à partir de là, cet homme est plongé dans un monde qu'il ne maîtrise absolument plus, qu'il ne reconnaît pas, et en même temps à travers lequel il va finir par se révéler. Alors on se moque du fond de l'intrigue, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'en moque pas parce qu'elle est dédaignée, parce qu'il y a une explication un peu capillotractée de pourquoi cet homme est là, ce qu'il représente, mais parce que les gens qui sont là, les espions eux-mêmes, ne savent pas pourquoi ils y sont. Et donc on plonge immédiatement dans un monde où l'incompréhension qu'on a, surtout à la première vision face à l'intrigue, est la preuve d'une absurdité totale, et qui elle aussi touche complètement à la métaphysique. Les Espions est un film qui date de 59. L'espion qui venait du froid de John le Carré, qui est le premier livre et qui aujourd'hui apparaît comme le jalon de cette vision du monde absurde, est en 1963. Donc Clouzot a déjà 4 ans d'avance sur son époque. Et il se sert de ce monde des espions pour dépeindre une vraie absurdité. C'est là où Kafka est une référence utile. Alors après, on retrouve dans sa mise en scène tout ce qu'on a dit aussi bien à propos du salaire de la peur qu'à propos des diaboliques, c'est-à-dire ce sens de l'enfermement. Un des personnages les plus importants du film, c'est cette maison. Cette maison dont on serait incapable, et ça rajoute à l'absurdité de la chose, de faire un plan.
Mais c'est ça, oui.
Il y a des escaliers, on ne sait pas trop où. Il y a des tuyaux, on ne sait pas d'où ils viennent. Ça fuit, ça goûte, c'est moche. Enfin, il y a un sens de la saleté qui est aussi une peinture, comme pour les diaboliques, de cette vie en province. Il y a une ambiance incroyable. Le premier plan, l'un des premiers, suit comme ça le mur de la propriété, s'arrête sur une voiture dont on ne sait pas pourquoi elle est là, passe devant un bistrot. Et là, déjà, Clouzot, en un simple plan, plante complètement le décor. Donc c'est un film qui est à la fois un film d'une maîtrise totale, un film policier, le terme un peu réducteur, mais extrêmement pointu, et une peinture vraiment morale et métaphysique du monde. Et le plan final, là je ne raconte pas totalement la fin, mais où il réussit à nous terroriser à travers une simple sonnerie de téléphone qui prend d'un coup une image de destin écrasant. Et c'est vraiment le film d'un grand moraliste et qui, contrairement à ce qu'on raconte, ne se perd pas du tout, mais maîtrise un monde dont il met en jeu en permanence l'absurdité.
Avec ce téléphone, effectivement, qui, à la fin du film, sonne, et ne s'arrête pas de sonner, et devient une espèce de sirène éternelle qui est vraiment parfaitement infernale, les espions. Donc, d'Henri-Georges Clouzot, on termine cette émission, bien évidemment, avec Christophe Bille.
Les éditions Humus à Lausanne publient un monumental catalogue raisonné sur l'illustrateur français Martin Van Mel, dont la production fait le grand écart entre les cartonnages populaires et les journaux pour la jeunesse de la fin du XIXe siècle et les romans de flagellation du suivant. Sur près de 900 pages d'une inextinguible érudition, Luc Binet recense toutes les traces de sa carrière éclectique, depuis les premières traductions des aventures de Sherlock Holmes aux premiers hommes dans la lune d'H.G. Wells, des récits campagnards alimentant les livres de prix aux préjugés racistes d'un roman exotico-comique comme « Tetounebo le roi nègre » de Jules d'Orsay. L'œil s'attarde sur les gravures fantastico-terrifiques de la réédition de La sorcière de Michelet en 1911 qui se pare d'un sadisme morbide. Binet nous guide alors dans les dédales vertigineux d'une seconde partie de carrière vouée aux noces d'Eros et Thanatos. L'œuvre majeure, convoitée par les bibliophiles, est la suite de 44 eaux-fortes constituant La grande danse macabre des vifs, publiée en 4 cahiers à partir de 1905. L'influence de Félicien Rops est évidente, mais Binet dément formellement l'idée que Van Mel en fut l'élève. La folie criminelle de Joseph Vacher surgit dans un cadre bucolique. Le Christ en croix, tourmentant l'essence d'une religieuse opulente, n'est plus qu'un énorme phallus auréolé. Des oies à tête de gland menacent les jupons d'une paysanne. Une fille de mauvaise vie, dite la ventouse, absorbe par le vagin la tête de la rivale. Dans les combles, le mari trompé se pend avec son sexe flasque et serpentin. Quand ils ne sont pas abusés, les enfants singent les jeux sexuels des adultes. Van Mel montre une société dévorée par le sexe. L'obscène crudité, la violence, le cynisme en font une œuvre d'une angoissante subversion, condamnant aussi bien la bourgeoisie libidineuse que les ouvriers violeurs des fortifs. Dans cette veine extrême, l'auteur signale encore le cauchemar d'un nouveau riche, dont la critique sociale dépasse les outrances de l'assiette au beurre. La syphilis de la gouvernante, une domesticité de sodomite et le cocufiage assiègent les songes d'un commerçant repu. Dans la planche finale, bourrelé par des démons griffus, il chie et vomit ses pièces d'or. Van Mel trouble, par cette inventivité provocante et fantasmagorique qui cumule l'effroi de la révolte et le sarcasme vitriolé. Avec ce pavé aux superbes reproductions, Luc Binet ressuscite aussi tout un monde artistique enfoui, portraiture des littérateurs oubliés et des figures fantasques de l'édition clandestine, apportant, dans ce domaine si secret, des lumières inédites.
Merci Christophe Bir. Je rappelle la très riche actualité en cette année anniversaire d'Henri-Georges Clouzot. Clouzot et les arts plastiques, une suite contemporaine, exposition visible donc à la topographie de Paris du 17 novembre 2017 au 12 janvier de l'an prochain. La biographie fort précieuse car basée sur des textes et des archives de Clouzot lui-même, donc de Chloé Follin chez Vendémiaire, dans la collection Ciné Patrimoine Concept, les métamorphoses d'Henri-Georges Clouzot. Le catalogue de l'exposition Le Mystère Clouzot,
dirigé par Noël Herp, édité par Lienhard et la Cinémathèque française. Et puis bien sûr, Clouseau avant Clouseau, un coffret de 6 DVD disponible chez Lobster et puis chez TF1 Vidéo et dans la collection Héritage. Eh bien, la totalité ou la quasi-totalité de l'œuvre de Clouseau depuis L'Assassin habite au 21.
Il manque la vérité, en voilà. Fait, dans les longs métrages, pour des questions de droit.
La quasi-intégralité donc de Clouseau disponible.
Tout a été restauré.
En état restauré dans ce coffret et dans ces deux DVD collector. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Pascal Bénard, Serge Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnel, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Hubert Prolongeau, Christophe Bire et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine. Nous serons à Nantes en compagnie de Calvo, en compagnie de Marilyn Huet pour parler de Jules Verne et de Pacôme Thielman. Tout cela dans le cadre du festival Utopial, donc de Nantes. À la semaine prochaine. Bonne soirée à tous.